Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Martin Blachier.
Bonjour.
Médecin de santé publique, épidémiologiste. La deuxième vague, ça y est, elle est là ?
Oui, on a une reprise épidémique. Alors c'est ce que les gens comprennent quand ils entendent deuxième vague. Donc oui, effectivement, il y a une deuxième vague. On en a eu une première qui n'avait rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui, en mars-avril, qui a été jugulée par un confinement. Et là, on a une deuxième vague qui démarre beaucoup plus doucement, parce qu'on a quand même les mesures barrières qui permettent de la calmer, qui n'a pas du tout encore atteint les niveaux de mars-avril, mais on a une reprise.
Les principales différences, c'est que pour l'instant, on n'a pas de tension hospitalière, ni le nombre de morts qu'on avait sur la première vague.
Alors oui, attention, il y a quand même une petite inertie. Donc on n'est pas au même niveau que ce qu'on était en mars-avril. Donc on n'est pas encore en train de préparer quelque chose qui ressemble au niveau des hospitalisations et des décès, mais on va avoir des hospitalisations qui vont monter et on aura les décès qui suivront. Donc ce ne sera pas dans les mêmes dimensions, mais ça va venir là quand même dans les jours qui viennent.
Les moins de 50 ans, 50-60 ans, ne meurent plus, quasiment plus du Covid. Ce sont toujours les plus âgés et les plus vulnérables qu'il faut protéger.
Absolument, c'est une maladie de la personne âgée. Donc c'est les gens au-dessus de 65 ans qui sont atteints de formes sévères et qui risquent d'en décéder. Pour le reste de la population, c'est une maladie qui est bénigne. Hein. Chez les moins de 50 ans, on a 6 fois plus de chances de mourir aujourd'hui d'un accident de la route que du Covid. Donc c'est un sujet qui concerne très peu les jeunes, effectivement. C'est une maladie de la personne âgée, comme la grippe.
Donc le clip du gouvernement qu'on voit dérouler là depuis quelques heures, avec une mamie qui reçoit ses proches, ses enfants ou ses petits-enfants pour son anniversaire avant de se retrouver en réanimation, c'est le bon message ?
Je trouve que c'est un peu exagéré. Je pense qu'il faut faire attention parce que le but, c'est pas que les grands-parents soient isolés. Le but, c'est de faire particulièrement attention quand on les voit et d'éviter les grands rassemblements avec ces personnes âgées. Je pense qu'il faut différencier le fait d'aller voir ses grands-parents pour pas qu'ils soient seuls et qu'ils puissent voir leurs enfants et leurs petits-enfants, d'organiser des grandes cousinades ou des grandes fêtes familiales en ce moment, ce qui est évidemment pas une bonne idée. Mais je pense qu'il faut... Voilà. Et les personnes âgées peuvent aussi se contaminer entre elles. C'est-à-dire que cette idée que c'est systématiquement les enfants qui vont contaminer leurs parents, c'est pas forcément vrai. Hein. Les personnes âgées peuvent se contaminer entre elles, elles ont une vie sociale, et donc il faut aussi qu'elles fassent attention dans leur vie de tous les jours.
Donc le bon message, même si on n'est pas obligé de l'accompagner d'images ou de situations anxiogènes, c'est de limiter ou d'éviter les rassemblements privés, les réunions de famille.
Sauf si vous acceptez de le faire masquer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi dire aux gens qu'on peut tout à fait avoir une vie normale et ne pas relancer cette épidémie. Toute l'Asie vit normalement, l'Australie vit normalement, le Japon vit normalement, le Canada vit normalement, et ils n'ont pas d'épidémie. Pourquoi ? Parce qu'ils respectent scrupuleusement les mesures barrières. Donc si jamais on se comportait bien et qu'on mettait vraiment le masque dans les lieux clos et qu'on faisait vraiment attention, on pourrait avoir une vie normale. Or, visiblement, c'est ce qu'on fait pas puisque l'épidémie reprend.
Bon, le bon degré d'inquiétude ou de niveau d'alerte qu'on doit avoir, il y a un certain nombre de médecins ou d'experts ou d'universitaires qui expliquent qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que le conseil scientifique et le gouvernement devraient arrêter de faire peur aux Français. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce qu'il faut, je veux dire, une réalité, c'est qu'on n'est pas en face d'un cataclysme. C'est vrai, ça. Je veux dire, après, le risque, c'est d'avoir effectivement des services qui sont embouteillés. On n'en est pas encore là. Par contre, ce qui est dommage, c'est de se mettre dans une situation où on va devoir un peu se bloquer. C'est ça qui risque d'arriver. C'est simplement qu'on va être obligé de rebloquer la société comme ce qui est fait en Israël. Donc je dirais qu'il y a un peu la voie du bon élève. Qu'est-ce que font les Allemands ? C'est-à-dire prévenir. Alors, on va un petit peu trop loin, mais ça évite d'avoir des problèmes. Et puis après, il y a les pays comme l'Espagne, Israël et un petit peu le sud de la France, où à force de trop se relâcher, de trop relativiser, après ils vont être obligés de fermer leurs bars, de fermer leurs restaurants, voire plus si jamais les gens s'emballent. Donc je pense que c'est dommage d'en arriver là.
Davantage d'autodiscipline plutôt que des mesures administratives ou réglementaires comme celles qu'on attend cet après-midi en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône où les préfets sont invités à présenter les mesures. Alors d'abord, les bars et les restaurants, on en parle souvent. Vous avez vu d'ailleurs que Anthony Fauci, l'épidémiologiste en chef aux États-Unis, a recommandé de ne plus manger au restaurant.
Eh bien oui, effectivement, il y a une étude du CDC qui est parue, qui est très intéressante. Ils ont comparé des gens qui étaient infectés par le Covid et des gens qui n'étaient pas infectés par le Covid, et ils ont enlevé tous les gens où on avait un cas contact bien déterminé. On garde les gens qui sont infectés, on ne sait pas. Eh bien ce qui sort, c'est que les gens qui ont été infectés ont fréquenté des bars et des restaurants dans les 15 derniers jours. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont enlevé le masque pour boire, ils ont enlevé le masque pour manger. Donc en fait, c'est ça qu'il faut dire aux Français. Il faut être logique. Si vous avez le masque, si vous êtes protégé, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas protégé. Vous infectez dans les endroits où vous vous mélangez avec les autres. c'est-à-dire les bars et les restaurants, et ensuite vous allez infecter votre famille. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous évitez d'être dans ces situations-là, eh bien du coup vous éviterez la reprise épidémique.
Donc la limitation des horaires d'ouverture des bars et des restaurants, ce qui risque d'arriver peut-être à Bordeaux ou à Marseille encore davantage, ça n'est pas absurde.
Absolument, je pense que les préfets de ces endroits-là, et la Guadeloupe aussi, qui est encore plus inquiétant, la bonne mesure, c'est effectivement les bars et les restaurants. Ça ne sert à rien de fermer les plages.
Alors, les plages, oui, ça a été proposé par Renaud Muselier, le président de région.
C'est complètement délirant, et c'est là que je vois que ce n'est pas possible de laisser totalement la décision en local. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider en local, appliquer des mesures en local, mais il ne faut pas qu'ils impliquent n'importe quelle mesure. C'est pour ça qu'il faut qu'à un moment, il y ait des scientifiques qui leur disent ça, c'est utile, et ça, c'est inutile. Sinon, on va revenir sur des choses qui sont strictement inutiles. Il y a des gens comme moi qui ne pourront pas s'empêcher d'aller le dire sur les ondes et donc les gens ne vont pas adhérer. Donc il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il y a des mesures qui ne servent à rien. Donc il faut laisser les gens aller sur la plage faire des pique-niques et ne pas les mettre dans des restaurants ou dans des bars en pleine explosion épidémique comme à Marseille ou à Bordeaux.
Le problème, Martin Blachier, c'est que vous venez de citer l'étude du CDC américain, mais ces études épidémiologiques sont rares en France. Il n'y en a quasiment pas. On ne sait pas où les gens se contaminent, ce qui paraît à peine croyable après des mois d'épidémie.
Je suis d'accord pour dire que là, le travail n'a pas été fait. On ne sait pas comment les gens se comportent. Donc on dit le masque en intérieur, mais on ne sait pas si c'est respecté. Et on ne sait pas exactement où les gens s'infectent. Et c'est un vrai problème. Parce que si jamais on avait ces données-là, ce serait beaucoup plus facile d'expliquer aux gens pourquoi on prend telle ou telle mesure. Et ce serait facile de contredire des mesures inutiles qui sont prises et qui créent des espèces de mouvements, de réactions dans la société qu'on aimerait bien éviter.
La question qui revient en permanence aussi, compte tenu de tout ce qu'on a dit depuis le début sur les risques limités pour les plus jeunes, les risques élevés pour les plus âgés, est-ce qu'il ne faut pas laisser le virus circuler parmi les jeunes tant que ces jeunes ne fréquentent pas les plus âgés ou les plus vulnérables ?
C'est une stratégie. C'est une stratégie que personne n'a choisi au monde de faire, à part un petit peu la Suède, mais encore ça se limite parce que les Suédois, ils sont énormément autodisciplinés, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, quasiment comme les Allemands, les Canadiens et les Asiatiques. Le problème de cette stratégie-là, c'est qu'au bout d'un moment, si vous avez une circulation intense dans la population jeune et que vous voulez faire cette stratégie, vous êtes obligé de couper la population jeune de la population âgée pendant un certain temps. C'est ce qu'on avait calculé. Et imaginez que vous allez réussir à couper la population française en deux pendant 6 mois, 1 an, ça paraît difficile à imaginer. Donc je pense que c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante d'un point de vue de modélisateur, d'un point de vue théorique. Mais je pense que dans la vraie vie, elle est très difficile à appliquer.
Dans la vraie vie, les jeunes, quelle que soit leur relation avec leurs parents ou leurs grands-parents, finissent toujours par fréquenter des personnes plus âgées et donc en augmentant les risques.
Et c'est souhaitable, parce qu'il ne faut pas non plus que cette population âgée vive un enfer encore plus dramatique que si jamais il devait affronter le coronavirus. Mmh. Puisque le coronavirus, je le rappelle, c'est 0,4% de mortalité, et même les personnes âgées n'en meurent pas toutes. Il y a peut-être 10% qui vont faire une forme sévère, 90% qui ne vont pas faire une forme sévère. En fait, c'est ça qui est dur dans cette épidémie, c'est une question d'équilibre. Ce n'est pas suffisamment tranché pour qu'il y ait une décision forte qui permette de choisir une stratégie claire. Il faut que ce soit un équilibre.
Plus de 10 000 cas de contamination en 24 heures ce week-end. Est-ce qu'on a atteint un niveau où le traçage est devenu quasiment impossible ?
Le traçage, ça, franchement, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est pas du tout comme ça qu'on arrive à contrôler l'épidémie. On est plusieurs modélisateurs maintenant à savoir qu'on diagnostique à peu près un tiers à un quart des cas. Donc la majeure partie des chaînes de contamination nous échappe complètement et on n'arrivera pas à courir après au niveau où on est aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place des mesures barrières simples et efficaces. Peut-être quelques mesures supplémentaires par les préfets dans les endroits où ça circule beaucoup. Et cette histoire de traçage, il faut arrêter, il faut décélérer sur le dépistage, il faut vider un petit peu les laboratoires et envoyer les gens symptomatiques et les vrais cas contacts. C'est pareil, il faut éduquer les gens sur ce que c'est qu'un cas contact. On n'est pas systématiquement un cas contact, il faut des circonstances très particulières pour s'infecter. Et c'est pas dès qu'on croise quelqu'un dans la rue, dès qu'on a parlé 5 minutes avec quelqu'un à l'extérieur.
Non, il faut être un quart d'heure dans une même pièce en gros.
Il faut être un quart d'heure avec quelqu'un à moins d'un mètre en lui parlant
proximité.
Vraiment. Et pour avoir phénomène d'aérosol dans la même pièce, il ne faut pas porter de masque, il faut que ça dure au moins 1h30, 2h. Donc les gens surestiment le risque en fait sur les cas contacts.
Merci beaucoup Martin Blachier, médecin de santé publique, de nous avoir éclairé ce matin. On peut continuer de faire des tests quand même.
Oui, il faut tester les personnes symptomatiques et les vrais cas contacts, mais il n'y a pas besoin forcément de tester 1 million de personnes par semaine, je pense.
Et merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, un nouveau journal à 13h avec Christophe Lamarre et puis La France Bouge, Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.